Malgré les dystopies que je voyais, la science-fiction m'a quand même toujours fait croire que l'humanité irait vers le mieux. C'est-à-dire, moi, toute ma jeunesse, j'ai cru qu'on allait tendre inévitablement vers une amélioration sociale, culturelle, politique, économique et technologique du monde, et qu'on finirait par vivre dans une utopie à la Star Trek. Sauf que on se réveille tous les jours et on se rend compte qu'on est plus dans du V pour Vendetta.
À pied d'œuvre, le podcast qui réconcilie les arts et les sciences. Entre clin d'œil, jeu de miroir et de cache-cache, art et sciences n'ont de cesse de se chercher et de se perdre pour mieux se retrouver. Tous les mois, je vous invite à partir à la découverte des accomplissements de ce drôle de couple qui, lorsqu'il se comprend, transcende la réalité. Un podcast de Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital. Bonne écoute! En juillet, nous explorions le rôle de Jules Verne en tant que père de la SF et de la pop culture avec Nicolas Allard. En août, nous avons plongé dans l'univers des robots avec Natacha Vazdehir. Aujourd'hui, nous poursuivons notre immersion dans la science-fiction en découvrant non pas un auteur ou une figure récurrente, mais un genre, la fiction climatique. Depuis sa création, la science-fiction n'a de cesse de nourrir nos imaginaires tout en rendant compte des préoccupations sociétales de son époque. Et tout comme le robot, le sujet de l'écologie avait déjà été abordé par un auteur de SF avant qu'il ne soit traité dans son aspect scientifique. Edgar Allan Poe évoquait par exemple la modification de l'atmosphère après le passage d'une comète dans une œuvre de 1839, alors qu'il faudra attendre 1866 pour que la notion de l'écologie soit introduite dans sa perception scientifique. L'environnement, et notamment l'impact de l'activité de l'homme, va surtout devenir un thème populaire à partir des années 60 et 70, notamment avec la remise en cause du progrès industriel et de l'ère du nucléaire. On passe donc d'un travail ayant essentiellement trait à l'imaginaire à une écriture qui s'engage dans un combat nettement idéologique de contestation écologique. Après 8 épisodes et autant d'interprétations de la relation entre art et science, j'ai le plaisir de clore cette saison sur ce sujet en compagnie de Renaud, le capitaine du Nexus 6, ce vaisseau spatial qui compte à bord de sa chaîne YouTube plus de 240 000 abonnés. Dès son enfance, Renaud rêve de réaliser des chroniques de science-fiction narrative. En 2014, il parvient à embarquer ses potes de la boîte de production French Toast. Depuis, il propose des histoires et analyses superbement écrites et réalisées autour de la SF. Cinéma, littérature, jeux vidéo, animés, aucun support ne manque à l'appel, le tout dans un univers futuriste et humoristique. Capitaine, bonjour.
Bonjour, soleil sur vous, citoyennes et citoyens.
On va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une fiction climatique ?
Une fiction climatique, c'est une œuvre qui va mettre au centre de sa narration les enjeux climatiques actuels. Actuels, quand je dis actuels, ce sont ceux du 21e siècle, 20e, 21e siècle, et dont le cadre aussi va être cet enjeu-là. C'est-à-dire qu'on va être dans un monde qui est relativement déterminé par cet axe-là principalement. C'est un peu comme ça que se définissent souvent les genres de la science-fiction. Le cyberpunk, c'est les modifications corporelles qui prennent une place très importante dans la société. Bah là, le sujet principal qui prend une importance particulière dans ces mondes-là, c'est le changement climatique.
Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples populaires, que ce soit au cinéma, sur petit écran ou dans des jeux vidéo ?
En fait, il n'y en a pas tant que ça. Des œuvres de moi, je dis cli-fi, mais cli-fi, je ne sais pas. Il n'y en a pas tant que ça. J'y ai réfléchi l'autre jour. Moi, il y a un livre qui est clairement de la cli-fi, mais c'est un peu ancien. C'est, j'ai oublié le nom. C'est Tous à Zanzibar, oui, de John Brunner, qui est dans un futur assez proche. Alors, c'est le futur proche pour nous, mais assez éloigné à l'époque d'écriture du livre. Dans lequel, effectivement, il y avait toute une réflexion sur non seulement les enjeux climatiques, mais aussi les enjeux de population. Et on verra peut-être au cours de ce podcast que ce sont deux thématiques très liées. Mais si un exemple plus connu, je dirais que c'est le film Soleil Vert.
Et au-delà du genre de la fiction climatique au sens strict du terme, est-ce que tu as des petits préférés dans des œuvres qui traitent de ce sujet, pas forcément directement, c'est pas forcément le cœur du propos ?
D'une manière générale, on sent que la crise écologique habite la science-fiction de plus en plus. Je sais qu'on risque d'en parler, mais on voit très bien qu'une œuvre comme Dune, qui avait déjà une pensée écologique dans les années 60-70, prend une autre dimension aujourd'hui, et notamment avec la réinterprétation de Denis Villeneuve. Donc une œuvre qui m'aurait vraiment marqué à ce niveau-là, je ne saurais pas te dire, si ce n'est que pour moi, j'ai découvert l'enjeu climatique très très jeune, vers, je pense, 8-9 ans, et pas particulièrement avec la science-fiction, mais plutôt dans Picsou Magazine, avec des récits de Riri, Fifi et Loulou, les castors juniors, qui essayaient de sensibiliser les gens à ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'était quelque chose d'assez acquis. Depuis que je suis tout petit, je sais qu'il y a une urgence climatique et une crise écologique. Et en fait, je me rends compte que ça fait que depuis 5-6 ans que les gens ont vraiment pris conscience du truc. Donc en fait, moi, ça a toujours été en sous-texte de toute œuvre de science-fiction que je pouvais lire. C'est-à-dire, n'importe quelle œuvre, je vais me dire, tiens, quelle est sa position par rapport à ça? Est-ce qu'on est dans une société utopique qui a réglé le problème, ou bien est-ce qu'on est dans une société qui reste fondamentalement capitalistique et libérale et qui est un petit peu à détruire, même si c'est pas le sujet de l'œuvre.
Tu m'as tendu une perche pour Dune, donc je vais la saisir. C'est une œuvre qui aborde extensivement le sujet de l'écologie, qui s'impose comme l'un des romans les plus décisifs de ces 50 dernières années sur ce thème. Donc à l'origine, c'est une œuvre de Frank Herbert. Personnellement, j'ai découvert l'univers grâce à Denis Villeneuve, qui l'a porté à l'écran en 2021, mais je sais
Ah, c'est récent.
Oui, c'est très récent. Mais je sais que toi, tu as baigné dedans dès ton enfance. Dune, c'est un scénario complexe, une histoire dense, dans laquelle Herbert, son auteur, évoque l'importance du lien entre les écosystèmes et les modes de vie, notamment par le biais de l'arc narratif des Fremen. Tu y as consacré toute une vidéo à bord du Nexus 6 en compagnie de François Terrel, plus connu sous le nom du fossoyeur de films. J'invite évidemment nos auditrices et auditeurs à aller y jeter un coup d'œil sur votre chaîne YouTube, le lien est dans la description. Pour reprendre les termes de François, vous étiez un peu tous les deux d'accord pour dire à la sortie du film que le film avait tenu toutes ses promesses, mais pas plus. Est-ce que ton avis a évolué presque un an plus tard ?
Non, pas beaucoup. Au-delà de tenir ses promesses et pas plus, pour moi, c'est tenir ses promesses et c'est tout. Ce qui est différent. Ce qui est différent. Non, mais dans cet exercice délicat qui est de juger des œuvres, et je mets des guillemets parce que c'est pas comme ça que je considère mon travail d'analyse. L'idée n'est pas de juger, mais plus de donner un ressenti, une analyse intellectuelle et émotionnelle des choses. Et dans ce travail délicat, on se pose toujours un peu la question de est-ce que je suis pas devenu un peu aigri et super exigeant et parce que fondamentalement, si tous les films, et je crois que je le dis dans la vidéo, si tous les films étaient du niveau du Dune de Villeneuve, au moins, on vivrait dans une utopie post-économique et on aurait tous des voitures volantes qui ne polluent pas. Je veux dire, ce serait un monde assez merveilleux si le maître étalon du cinéma, c'était au moins ça, on serait assez heureux. C'est pas le cas, donc très clairement, c'est quand même un film qu'il faut voir et un film qui transporte. Et je pense aussi que des gens qui ne sont pas ou qui ne se pensent pas fans de science-fiction, puisque ma position, c'est que tout le monde aime la science-fiction, c'est juste qu'ils ne savent pas ce qu'est réellement la science-fiction. Je pense que des gens qui sont moins connaisseurs verraient ce film et seraient assez subjugués. Donc ça, c'est quand même une grande qualité.
Et alors, pour revenir au cœur du sujet, la façon dont il s'est approprié à la fois l'environnement tel qu'il était traité par Herbert et la façon dont il nous l'a livré dans Dune, est-ce que là aussi tu trouves qu'il y a eu recyclage ?
Non, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est la question environnementale, elle évolue aujourd'hui, c'est qu'à l'époque d'Herbert, même s'il y avait cette logique, bon, faut savoir que disclaimer, j'ai lu Dune très très jeune, je ne l'ai pas relu depuis très longtemps, donc je ne suis pas vraiment... Enfin, il y a des gens bien plus spécialistes de la question qui bouffent du Dune tous les jours, chaque jour de l'année. Moi, c'est pas mon cas. Mais mon analyse, on va dire historico-sociologique, si je puis me permettre, c'est que à l'époque de Herbert, même s'il y avait donc cette logique, notamment avec les Fremen, de vivre en accord avec la nature, etc., il y avait aussi la question de la végétalisation de Dune, de la revégétalisation de Dune, qui est menée par les Fremen. Enfin, c'est un souhait qu'ils ont. Sauf qu'on est, du coup, on est quand même dans une logique de terraformation, de modification de l'environnement pour les besoins humains. Or, Dune n'est pas la planète d'origine de l'humanité, et du coup, Dune est ce qu'elle est, telle qu'elle est, et peut-être qu'il faudrait qu'elle reste telle qu'elle est. Même si on apprendra après dans le récit que c'est à cause des vers des sables que Dune est devenue ce qu'elle est et que peut-être les dunes viennent d'une planète. Bon, bref. Mais en tout cas, c'était pas de notre faute. C'est la faute de l'humanité qu'elle soit comme ça. Mais voilà. Donc, on est quand même sur une logique de domination de la nature par l'humain. Et même, et c'est là où c'est paradoxal, c'est que même si on se dit, ah, mais c'est cool parce qu'on va mettre des plantes, on va mettre de l'eau, on va mettre de la vie, en fait, on va quand même à l'encontre de la nature. Et c'est là la différence aussi entre nature et environnement et la définition qu'on donne à ces termes-là. Et j'aurais tendance à dire que peut-être qu'aujourd'hui, dans la réinterprétation de Villeneuve, la position serait différente, puisqu'aujourd'hui, on pense, enfin, en tout cas, on est en train de se dire qu'il ne faudrait pas forcément qu'on domine la nature, mais plutôt qu'on s'adapte, qu'on la respecte, qu'on la laisse telle qu'elle est. Ce qui va être compliqué, puisque malheureusement, il va falloir qu'on continue à la modifier, mais d'une meilleure manière, en fait, pour revenir un petit peu en arrière, donc c'est là aussi qu'est le paradoxe. Le problème, c'est que pour moi, le film aborde très peu ce sujet-là pour le moment.
Sur Nexus 6, tu incarnes un chef de vaisseau décrit comme brutal, susceptible, alcoolique et misanthrope, mais passionné par la science-fiction. C'est ce que dit Wikipédia, du moins. Pas mal d'auteurs de SF rejoignent cette dynamique en dépeignant souvent l'humanité comme violente, cupide, destructrice. Est-ce que l'art de la SF n'est pas un peu un art du cynisme ?
Je sais. Je dirais que oui. Ça dépend toujours des créateurs, des auteurs et des autrices et des créatrices. Ça va dépendre de leur position à un moment. Et puis eux-mêmes et elles-mêmes peuvent évoluer dans leur vie. On est des fois plus positif, plus négatif. C'est vrai que j'ai un peu le sentiment que la SF peut avoir cette position. En tout cas, c'est peut-être ce que ressentent certaines personnes. D'un monsieur, je sais tout, quoi. Voilà là où vous avez merdé. Voilà où vous allez merder. Et voilà comment vous allez mourir. C'est vrai que c'est une position qui, moi, m'intéresse un peu plus. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des mouvements littéraires qui essayent de relancer un petit peu les utopies. Et on voit notamment, avec le retour de Star Trek dans pas mal de séries, et je citais The Orville, qui est une espèce de Star Trek humoristique, mais qui est exceptionnel, je conseille à tout le monde, où on est dans une recherche de l'utopie pour l'utopie, et en fait, réenchanter un petit peu les imaginaires. Et en fait, ça fait quand même du bien. C'est vrai que moi, j'aime bien voir comment le monde va finir, et parce que je suis assez pessimiste sur tout ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, est-ce que finalement, on ne devient pas trop cynique, justement parce que nos univers d'imaginaire le sont aussi, et que c'est tout ce qu'on nous offre. Et peut-être qu'en réenchantant les œuvres de fiction, par l'utopie notamment, peut-être qu'on arriverait à faire croire aux gens qu'une autre voie est possible. Et c'est vraiment une question que je me pose beaucoup en ce moment. Donc, j'ai pas la réponse, mais effectivement, il y a inévitablement du cynisme dans la science-fiction, je pense.
La SF nous confronte souvent à un constat, somme toute, assez nihiliste. Dans la saga Blade Runner, par exemple, les champs de culture ont été remplacés par des panneaux solaires à perte de vue. Dans les jeux vidéo Fallout, une guerre nucléaire a détruit les États-Unis et probablement le reste du monde, ne laissant qu'une terre stérile et hostile. Bref, pas de quoi nous mettre du baume au cœur. Dans ces œuvres, rien ne viendra sauver une humanité à la dérive. Ma question est un petit peu celle de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est le genre lui-même qui nous demande ce pessimisme pour plaire, pour captiver, ou la SF n'est-elle que l'expression d'angoisse préexistante ?
Ah, c'est un peu ce qu'on disait. C'est délicat. Moi je pense qu'on est quand même sur des angoisses préexistantes, ne serait-ce que parce que les religions sont de la science-fiction et qu'on a toujours, du coup, imaginé... bien avant que le terme de science-fiction existe et que le genre soit formalisé tel qu'on le définit aujourd'hui, on avait des récits de destruction et d'apocalypse. Donc moi, je pense qu'il y a cette peur intrinsèque de la fin qui nous amène à nous questionner sur les pourquoi du comment et le comment, surtout. Donc je pense que c'est inhérent. C'est inhérent. Maintenant, ta question, elle en amène un petit peu à une autre. C'est la responsabilité de la SF là-dedans. Et moi, c'est vrai que c'est une position... Je pense qu'on fait un faux procès à la SF. La SF, on considère qu'elle était là aussi pour nous guérir ou pour nous donner des clés d'amélioration et quel chemin choisir. Je pense que c'est un peu trop lui demander, dans le sens où on est quand même dans un genre de l'imaginaire et que si ça peut nous faire réfléchir, c'est réfléchir, c'est bien, les actes, c'est mieux. Toutes ces améliorations technologiques peuvent amener énormément de positifs, mais ces œuvres nous ont aussi montré que il y a aussi des choses sur lesquelles il fallait faire très attention. Là, qu'est-ce qui se passe, c'est que notamment les grands patrons des GAFA Eux, ils ont vu que l'aspect cool. Et c'est pour ça que, d'un coup, Facebook se dit, on va faire le métaverse, ça va être super génial. Je sais pas. Peut-être que justement, il fallait mieux regarder toutes ces œuvres que vous allez trouver super cool et super stylées. Sauf que cool et stylé, c'est cool et stylé, mais négativement. C'est-à-dire que ce sont des mondes dystopiques. On peut trouver ça cool comme œuvre de fiction. Maintenant, est-ce que vivre là-dedans, c'est cool? Je ne sais pas. Et c'est là qu'on voit que, fondamentalement, l'esprit humain, ne réfléchit des fois pas plus loin que le bout de son nez. Alors après, l'esprit humain, là on parle des dirigeants, mais tout ça, ça reste le produit d'un système. Un système qui fait qu'on prend ses décisions. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a tendance à complètement s'enfoncer dans les dystopies avec le sourire.
Oui, c'est ça, parce qu'on a on a quand même une fascination collective pour l'effondrement. Et est-ce que cette fascination-là suffirait à expliquer le succès relativement récent, enfin en tout cas récent à mon sens en tant qu'amatrice de SF, mais pas grande connaisseuse, un succès relativement récent mais pérenne du genre dystopique? On n'en sort jamais, j'ai l'impression.
Non, on n'en sort jamais, mais peut-être, mais aussi parce qu'on vit encore dans une société qui est très loin d'être parfaite. Et c'est pas parce que, on peut avoir notre petit boulot, partir en vacances, regarder Netflix et être un minimum, j'ai pas envie de dire heureux, parce que je sais pas si on arrive à être heureux, mais au moins, passer un petit peu de bon temps de temps en temps, c'est pas pour ça qu'on n'est pas encore dans un monde qui est fondamentalement, pour moi, mauvais. Donc c'est pas étonnant que nos fictions prennent ce chemin-là. Le jour où on sera dans une réelle utopie, etc., peut-être qu'on n'arrivera plus à imaginer des œuvres qui sont dystopiques. Peut-être qu'on sera tellement conditionné au bonheur et à la bienveillance et à l'amélioration du soi et des autres et de la société et du monde, qu'en fait, on aura complètement oublié cette part d'ombre qu'on a en nous. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que la part d'ombre, elle est majoritaire.
Alors, on va terminer sur, comme je le disais, un petit peu d'optimisme.
Avec moi, ça va être compliqué.
Nous ne parlons que de destruction et désolation depuis le début. Ouais. Pourtant, un courant existe pour nous aider à appréhender l'avenir avec une lueur d'espoir, le solarpunk. Est-ce que tu peux nous en parler?
Le solarpunk, c'est... J'ai envie de dire, pour résumer, que c'est un anti-cyberpunk, même si c'est plus complexe que ça. C'est un monde où la technologie va fondamentalement aider l'humanité au niveau environnemental, au niveau médical, au niveau bien-être. Voilà. Là où le cyberpunk, même si il donne l'impression d'améliorer, on l'a dit, un plan cybernétique, effectivement, ça peut remplacer un bras coupé. Sauf que si cet implant cybernétique a une mitrailleuse lourde, d'un coup, on est plus dans le négatif. Ça, c'est le cyberpunk. Là où effectivement, le solarpunk ne va pas partir là-dessus. Et on est souvent dans des utopies. Ça a en lien avec le cyberpunk dans le sens où les thématiques sont quand même abordées, c'est-à-dire les grandes corporations capitalistiques, les modes de production, les modes d'organisation sociétale, tout ça sont des thématiques communes aux gens, sauf qu'effectivement, le solarpunk, on est plus dans quelque chose qui va aller sur du positif, sur l'humanité, trouve vraiment la manière d'améliorer les changements climatiques, sociaux et économiques.
Au tout début de l'interview, tu m'as dit quelque chose, et ce sera ma dernière question. Tu as dit, les gens qui n'aiment pas la SF, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
J'ai fait un épisode là-dessus qui s'appelle « Je n'aime pas la SF ». Je le conseille à toutes celles et ceux
qui n'aiment pas la SF
de le regarder, ou à celles et ceux qui aiment la SF et qui entendent ça souvent pour l'envoyer à leurs amis et justement leur montrer. Non, c'est que souvent, les gens confondent SF et Space Opera. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, les gens se disent SF égale vaisseau piou-piou dans l'espace alien robot. Sauf que la SF, c'est bien plus que ça. Et souvent, je leur cite trois œuvres. Je leur dis « Est-ce que t'aimes Wall-E ?» Tu en as parlé. Je leur dis « Est-ce que t'aimes Wall-E ?» Ah oui, j'adore. Je dis, c'est pas SF. Ben non. Je sais pas, si, il y a un robot, un monde détruit, des vaisseaux spatiaux, il va dans l'espace. Ah oui, j'avais jamais vu ça comme ça. Est-ce que tu aimes Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec Jim Carrey et Kate Winslet, si je ne me trompe pas, qui est une histoire d'amour, une des plus belles histoires d'amour que j'ai jamais vues de ma vie. Et les gens disent « Ah ben oui, j'adore, c'est merveilleux. Je sais pas, t'en connais beaucoup des sociétés qui viennent chez toi la nuit pour effacer tes souvenirs d'un être aimé pour pas que tu souffres. » Ah bah non, je sais pas, c'est technologique, c'est une technologie qui n'existe pas, c'est de l'ASF. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Est-ce que t'aimes Bienvenue à Gattaca? Ah oui, j'adore, c'est de l'ASF. Ah bon, oui, société eugéniste, ils vont dans l'espace, qu'est-ce qu'il vous faut? Et Her, c'est pareil, Her, on est dans une société quand même future proche, assez technologique, avec des IA. Et les gens disent, ah j'adore, c'est de l'ASF. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens ne savent pas ce qu'est l'ASF. Ils en ont une vision tronquée. Et très souvent, quand je leur cite 3-4 trucs, ils disent « Ah si, j'adore », je fais « Bah voilà, tu aimes, la SF. Après, tu n'aimes pas certains genres de la SF, et ça, c'est ton droit, je peux te comprendre. Mais fondamentalement, tu aimes la SF, c'est tout. De toute façon, d'une manière générale, on aime tout. On aime tout, c'est juste qu'il faut tomber sur la bonne œuvre qui va nous parler.
C'est ça. C'est comme les aliments, il faut avoir commencé tôt à en manger plein de différents.
C'est ça, exactement.
Donc c'est sur cette question que s'achève cet épisode. Je te remercie beaucoup, Renaud, pour ton
temps.
Merci
à toi, c'était super de m'inviter. Je suis ravi d'avoir été là.
J'espère que cet épisode aura plu à nos auditrices et auditeurs. Vous trouverez en description le lien pour embarquer à bord du Nexus 6 qui a consacré sa dernière vidéo au film Prey de Dan Trachtenberg. L'occasion pour le capitaine de retrouver le fossoyeur de film pour échanger sur leurs avis respectifs.
Si je peux préciser un petit truc juste. Donc effectivement, il y a ces formats interview sur la chaîne où on débat d'une œuvre, etc. Mais le cœur de la chaîne, c'est quand même donc, des chroniques fiction dans lesquelles on va analyser des œuvres. Et en même temps, vous allez suivre nos aventures dans la galaxie avec des effets spéciaux, des aliens.
Des piou-piou.
On essaye de faire le Star Wars français.
Très humblement, c'est l'ambition.
Très humblement. Mais je vous conseille de regarder les épisodes 7 et 8. Ça vous donnera une bonne idée.
Et ben, je mettrai tous ces liens-là en description. Je te remercie. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.